Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Deuxième clap cinéma à propos des retransmissions du Metropolitan de New York, les opéras bien évidemment, avec Roland Massabio.
Bonjour.
Bonjour Roland,
bonjour
puisque nous avons déjà fait une première émission avec les cinq premiers opéras du mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Trois opéras contemporains. Dead Man Walking, X, la vie de Malcolm X, Florencia sur l'Amazone, donc aucun extrait puisque c'est des nouvelles créations et nous sommes très très donc,
curieux.
Et puis deux classiques, Nabucco et Carmen, et nous avions fini cette émission avec Carmen. Alors aujourd'hui, dans cette seconde émission, nous passons directement au mois de mars avec... Alors, il n'y a aucune nouvelle création dans cette deuxième émission. La Force du Destin, Roméo et Juliette, La Rondine et Madame Butterfly. Et La Force du Destin, c'est quelque chose qui marque. On a toujours Yannick Nézet-Séguin, dont on a parlé, quatre fois. Enfin, dans ses neuf retransmissions sur la trentaine de titres... Il est quatre fois présent.
C'est la vedette au Métropolitain.
C'est la vedette.
Ah ben, incontestablement. Ouais. D'ailleurs, dès qu'il monte au pupitre, l'ovation est énorme chaque fois.
Et qu'est-ce qui fait cette... On en parlait dans la première émission, qu'il était très, très dynamique, boulimique
alors,
de travail.
Alors en fait, il y a quelques années, alors qu'il n'avait pas été encore nommé et désigné directeur musical du Met, il était déjà venu sous la houlette du chef précédent, c'est-à-dire James Levine, en tant que chef invité.
Oui, je me souviens.
Voilà. De temps en temps, il dirigeait un ou deux ouvrages par saison. Et peu à peu, il y a eu un contact avec le public et les mélomanes américains. Mmh. Voilà, par son genre de vie aussi, par sa faculté d'être un chef moderne quand même.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait, dépoussiérage un petit
complètement,
peu.
Complètement, oui.
Et puis l'ouverture peut-être à un nouveau public.
Oui.
Alors ce nouveau public, peut-être que c'est avec les ouvrages contemporains. Florentia sur l'Amazone, vous disiez qu'il y avait un côté jazz qui peut-être attirerait
bien
un
sûr.
Nouveau public. Et nous avions parlé aussi dans cette première émission de cette programmation, le Metropolitan doit jongler, hein, on peut dire, vraiment, entre l'administratif, les goûts, le financier,
sûr,
le commercial.
Oui. Les recettes et les goûts, les sensibilités aussi.
Bien sûr. Et donc, nous, au Kinépolis de Nîmes, on a la chance donc, de voir ces neuf retransmissions. Et nous reprenons donc La Force du Destin, donc de Verdi.
Et
il n'y a pas de saison sans Verdi.
Non, c'est impossible.
C'est impossible. J'avoue ne pas avoir beaucoup de souvenirs de cette Force du Destin. Je me demande même si je l'ai déjà vue.
Ça, j'ai du mal à répondre oui ou non.
Vous, oui.
Oui, moi, oui. Alors, il faut savoir que c'est une nouvelle production.
Mmh.
Donc, pas d'éléments de regard contemporain ou traditionnel là-dessus. L'ouvrage n'est pas peut-être le plus joué de Verdi, c'est même sûr que ce n'est pas le plus joué. Il a quand même... Alors, avec un livret un petit peu décousu. C'est vrai.
Mm.
Mais bon, chez Verdi, ce n'est pas le premier.
Je ne l'ai pas encore vu.
Voilà. Mm. C'est un ouvrage avec une forte tension dramatique, avec une dramaturgie qui se précise de scène en scène et d'acte en acte, et avec surtout des morceaux de bravoure de la part de chaque interprète. Alors, plateau important, puisqu'il y a plusieurs rôles. Même ceux qui ne foulent pas le sol de la scène très longtemps, il faut un artiste complet parce que dramatiquement ou vocalement, c'est un ouvrage qui a énormément d'exigences. Donc passionnant pour l'amateur de voix, de toute façon. Le livret étant un peu, j'allais dire, mis de côté parce qu'il y a quelques invraisemblances.
Ouais. Bon, il y en a souvent dans les opéras.
Voilà, il y en a souvent.
Moi,
mais peut-être pas dans l'opéra contemporain.
Ouais.
Beaucoup moins.
Ouais. Je me souviens au début où j'allais voir des opéras, où je trouvais toujours bizarre que les gens qui agonisent pendant des heures.
Ah oui, c'est le meilleur moment.
Et c'est l'opéra.
Bien sûr. Ah oui, puis il y a des cadavres qui s'amoncellent. Bien sûr. Oui, oui.
Donc cette force du destin, elle est importante. Je vois qu'elle est transposée dans le monde contemporain.
Bon, on va voir.
On va voir. Parce que vous parliez des voix, vous parliez du livret, mais il y a aussi la mise en scène. Alors là, je ne connais pas, je crois, Mariusz Trelinski.
Non, pas du tout. Mais bon.
Donc, parce que la mise en scène, c'est là, on est au cinéma. On a déjà dit qu'on voit de près. On voit aussi lors des entractes, les coulisses, les maniements.
Évidemment.
Moi, je trouve que depuis plusieurs années, il y a beaucoup de plateaux tournants qui simplifient peut-être un petit peu la mise en scène.
Ce qui n'était pas le cas il y a de nombreuses années pour des raisons techniques.
Bien sûr.
Les théâtres n'étaient pas adaptés avec ce système qui est très avantageux parce que ça permet d'éviter les blancs, les pauses et les entractes.
Ouais.
On peut passer d'une scène à l'autre. Et ça tourne au rythme voulu.
Oui. Il y a du pour, il y a du contre. Et puis, c'est peut-être plus économique. Hein.
Il y a moins à changer
les décors. Quand on voit la hauteur des cintres, ces panneaux. Et puis, toutes ces personnes qui, lors des entractes, balayent, font les raccords. C'est assez extraordinaire. Moi, je dirais que rien que pour les coulisses, lors des entractes, ça vaut la peine.
Au moins de voir une fois.
Une fois.
Vraiment.
Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'imagine pas. C'est une vraie ruche, c'est une vraie ville. Et donc, cette force du destin, c'est... C'est important à voir.
Cette production va avoir l'avantage, j'espère, de révéler au public américain une cantatrice incroyable. Si vous voulez, actuellement, je pense qu'il y a 2-3 cantatrices de la nouvelle génération, on va dire ça. Je n'ai pas dit qu'elle avait 15 ans, mais c'est quand même un peu plus âgée, la nouvelle génération, qui elles sont en train de bouleverser un petit peu la fourmilière, et surtout de rivaliser avec les grandes stars installées, on va dire ça.
Ouais.
Alors, c'est une Norvégienne, elle s'appelle Lise Davidsen, qui est norvégienne de nationalité, et j'allais dire norvégienne de physique, parce que c'est une
grande...
je pense qu'elle fait plus de 1m80, ça c'est sûr.
Ah oui, tout de même.
Moi, j'ai pu la voir une fois, elle a fait une production à Aix il y a quelques années, Ariane Naxos de Strauss.
Elle pourrait jouer la Valkyrie sans problème.
Oui, alors c'est une Wagnerienne, justement.
Ouais.
Elle voit qu'à la fois pour le Richard Strauss et pour Wagner, qui va être inévitablement l'assise de sa carrière. Et là, c'est intéressant parce qu'elle va se présenter américain dans un rôle italien. Et donc, c'est un peu la curiosité.
Mais vous parliez tout à l'heure des Anglais en Amazonie, et là, vous parlez en fait des Norvégiens dans Verdi.
Oui, non, mais c'est intéressant.
Oui,
c'est intéressant.
Parce qu'il y a leur sensibilité.
Bien sûr, l'avantage de cette cantatrice, dans l'énorme vaisseau qu'est le Metropolitan New York, c'est le volume de la voix.
Eh oui.
Ça, c'est une soufflerie. Ah oui.
C'est pas péjoratif.
Ah non, c'est une soufflerie, vraiment, c'est énorme, une voix énorme.
Ah ouais.
Pour Wagner aussi, justement.
Pour Wagner aussi.
Pour dépasser les orchestres aussi, qui sont souvent, parfois, très volumineux et bruyants aussi. Donc, gros centre d'intérêt avec Lise Davidsen.
La force du destin.
Oui.
Eh bien, je vous propose qu'on écoute, puisque là, c'est une nouvelle production, mais on va écouter l'air que vous...
La célèbre ouverture.
La célèbre ouverture.
Thank you.
Alors, après cette ouverture de la force du destin, nous continuons d'explorer cette seconde partie de la saison 23-24 avec là aussi un grand standard, hein, Roméo et Juliette de Gounod. Ça aura lieu le 23 mars, toujours avec Yannick Nézet-Séguin.
Eh oui,
ah, vraiment,
dans le répertoire français cette fois-ci.
Voilà. Il est québécois, il parle bien français,
oui.
Il a une approche très particulière. Alors, Roméo et Juliette.
Production déjà vue au Métropolitain, appréciée particulièrement du public, production très illustrative, très, très classe, de bon goût, on va dire. Oui, oui. Assez traditionnel, mais de très bon goût. Oui.
On peut aimer le contemporain et puis avoir du traditionnel.
Bien
on
sûr.
Fait un peu ce grand écart.
Bien sûr.
Et puis, c'est la mémoire, c'est les archives, hein, c'est tout cela. Puis, Roméo et Juliette, qui ne connaît pas le drame de Roméo et Juliette, qui a été adapté, réadapté
au cinéma, au théâtre et partout.
Partout. Et dans les ballets également.
Bien
hein.
sûr.
Et puis, il y a le ténor français Benjamin Bernheim.
Oui.
Qui
est l'une des révélations de ces 15 dernières années, on va dire ça.
Ouais.
Oh oui. Ah oui, dans le répertoire français, pas que français, mais surtout dans le répertoire français, on va dire qu'il n'a pas beaucoup de rivalité avec personne là maintenant. Ouais. Par le timbre, mais par l'élégance aussi du style. Ouais.
Il a déjà joué au Metropolitan ?
Oui.
Oui.
Mais pas nécessairement dans le répertoire français.
Ah, d'accord.
De mémoire, il a dû faire le Duc dans Rigolette, je crois, une année, il me semble. Donc, et Nadine Sierra, qui est sa Juliette. Nadine Sierra, qui est une jeune américaine, jeune, qui est physiquement, on va dire, mignonne, très agréable, svelte, rayonnante, que les mélomanes de la région ont découvert il y a quelques années dans un Rigoletto à Orange, où elle a fait sensation, c'est sa présentation dans la région, et chantant son air allongé, c'était d'une pureté totalement aérienne, ça a été fantastique.
Ah, c'est sûr que la pureté, c'est important.
Ah oui,
pour,
et en plus pour ce personnage-là.
Ah ouais.
Pour Juliette, il vaut mieux quand même cette sensibilité-là, on va dire ça.
Et ils disent dans le petit livret que c'est une retransmission spectaculaire. Est-ce que pourquoi ce mot spectaculaire ?
Ah, c'est un grand spectacle. C'est presque hollywoodien.
Je veux dire, ah d'accord.
Par la qualité des costumes, très colorés, par l'ampleur des chœurs et des figurants.
Ouais.
Oui. Oui, c'est du grand écran. On va dire ça.
Oui, en fait, on est dans les retransmissions. Et c'est
bien
vrai
sûr.
Que je pense, dans leur choix, on a parlé souvent des choix de mise en scène, de voix, etc. Mais il y a aussi ce côté que ça passe sur le grand écran.
Bien sûr.
Avec ses gros plans, avec ses
Tout
mouvements.
Tout à fait.
Et vous le disiez aussi, c'est très bien filmé. Parce
oui.
que passer du détail à,
c'est très professionnel.
Au panoramique...
C'est très professionnel. C'est comme un match de rugby.
Ouais. Là, je ne vous suivrai pas parce que j'ai rien contre le rugby, mais je ne m'y connais pas.
Vous voyez pas le lien, non.
Donc, mais on sait que vous aviez des centres d'intérêt très variés. Et c'est ça
et
qui
oui,
fait
ça se confirme.
L'ouverture. Et ce Roméo et Juliette, on disait dans la première édition, vous avez vu parfois des dizaines de fois un opéra. Est-ce que Roméo et Juliette en fait partie de ces opéras ?
Mais pas tant que ça.
Pas tant que ça.
C'est pas un ouvrage que j'ai vu très régulièrement. Je le déplore. Parce que lorsque je l'écoute, lorsque je mets un CD ou que je regarde un DVD, ça commence de manière formidable par un magnifique chœur d'ouverture. Et il y a des scènes très, très touchantes. Il y a des airs somptueux, d'où l'air principal, Lève-toi soleil, surtout chanté par Benjamin Bernheim. Et c'est vraiment le type même de l'opéra français qui réclame un type de voix, un style. Voilà. Mmh. C'est vraiment le style français de Gounod.
Ouais.
Et ça, c'est important.
Comment vous le définissez, ce style français de Gounod ?
L'élégance.
L'élégance. C'est un peu l'idée que l'on a de l'art français.
Y compris dans le raffinement des voix.
Mmh.
Bernheim, c'est sûr. Et Nadine Sierra aussi. C'est cette espèce de fragilité robuste.
Mmh. Ça, je comprends bien, vous l'expliquez fort bien. Et je vous propose, vous l'avez cité, qu'on écoute Benjamin Bernheim.
Avec plaisir.
Donc, lève-toi.
L'amour, oui, son ardeur. quelle soudaine clarté resplendit à cette fenêtre.
Sur Radio Alliance Plus, pour Clap Cinéma avec Roland Massabuo, il nous reste donc deux opéras, parler de deux opéras de la saison 23-24 des retransmissions du Metropolitan au Kinépolis. Il n'en reste que deux.
Et deux Puccini d'ailleurs. Ouais,
deux Puccini. Alors, un que vous n'aimez pas, la Rondine.
Ce n'est pas le mot préféré. Je le dis franchement.
Mais vous avez le droit.
Mais cette production a des qualités.
Bon. Et Madame Butterfly, et on finira cette émission avec... Sur la mer calmée,
et oui,
de Maria Madame Calas. Butterfly,
rien
Maria
que ça.
Calas.
Rien que
et
ça.
Vous disiez que c'était bientôt l'anniversaire,
c'est à son moment,
l'anniversaire de sa mort. Puis je trouve que ce sera bien de finir avec Maria
Calas. Ah oui, surtout
Calas,
qu'elle le chante comme personne n'a jamais chanté.
Ah, voilà. Voilà. Alors pourquoi la Rondine ?
Alors pourquoi la Rondine ? Alors d'abord parce que ce n'est pas l'opéra le plus populaire, mais ça c'est la vie qui a fait que il n'est pas souvent programmé. C'est un opéra qui ne me touche pas beaucoup, pour des raisons... que je ne peux pas expliquer. Ça me touche
oui,
pas beaucoup.
Vous, émotionnellement, non, ça vous laisse assez neutre.
Oui,
il
y a un air qui se détache un petit peu, qui se détache même vraiment, mais sans plus.
Alors, le livret, revanche, non, mais souvent, bon, le livret,
oui,
c'est pas vraiment le plus important.
Mais, si vous voulez, l'intérêt pour nous, mélomanes français de cette production, c'est que c'est un peu l'hommage à la France, quand même, parce que c'est une production qui a été créée à Toulouse. Capitole de Toulouse, à l'époque où Nicolas Joël, qui est là aujourd'hui disparu, était le directeur du Capitole de Toulouse. Et il a monté pour le Capitole cette production de la Rondinée, qui en français veut dire l'hirondelle.
Oui, c'est sa mise en scène, là.
Oui, voilà. Et c'est toujours la mise en scène de Nicolas Joël, qui est maintenue toujours dans le répertoire du Métropolitain, alors que ça fait 25 ans que la production est créée. Donc c'est la fidélité quand même au savoir-faire et à l'imagination française qui fait là. Voilà.
Et le décor a l'air très art déco avec les vitraux.
Totalement art déco. Ouais.
Ça fait penser aux maisons de Nancy.
Absolument.
La Villa Majorelle.
Et bien voilà, c'est exactement
ça.
Oui, oui. C'est le très bon goût, franchement. C'est art déco, mais très très bon goût. Non, c'est bien.
Donc,
l'intérêt aussi de cette production, c'est l'orchestre. Mmh. Et alors là, vous allez être ravis. Ça va d'abord, c'est une femme qui conduit.
Bah bien sûr.
Ah voilà, magnifiquement.
Les chefs d'orchestre ne sont pas que des hommes.
Et non, et
il y en a de plus en plus.
Bah bien sûr, heureusement que les femmes, les chefs, qui disent, c'est pas le mot que je préfère, mais les chefs sont souvent en premier rang et c'est justice. Mmh. Alors là, c'est une jeune je dis bien jeune chef d'orchestre italienne originaire de Florence, qui s'appelle Speranza. L'Espérance, déjà c'est un beau prénom,
ben voilà.
Rien que ça. Mmh. Scapucci, ça sonne d'Italie, ça sonne Florence intégralement.
Ben pour Puccini.
Qui, ben, il vaut mieux.
Mais et en art français, c'est
oui,
extraordinaire.
Voilà, c'est assez formidable. Mmh. Qui a fait ses, enfin, qui a, dont la carrière a totalement éclaté en Belgique, où elle était, à ma connaissance, chef titulaire de l'Opéra de Liège. Mmh. Et maintenant, bon, le contrat est terminé, et donc, entre guillemets, selon l'expression, elle vole ses propres ailes. Mmh. Et ce vol l'amène jusque sur la scène. Elle traverse l'Atlantique.
C'est pour une hirondelle.
Complètement. Vous voyez, c'est lié avec l'hirondelle, ouais. Avec la rondinée. Donc, jeune femme, chef d'orchestre, extrêmement talentueuse. Mmh. Et Puccini qui réclame, avec le don de coloriste qu'il avait dans l'orchestre, qui réclame une osmose entre tous les pupitres de l'orchestre. Mmh. Cette chef d'orchestre est faite vraiment pour créer une vraie atmosphère.
Mais elle est spécialisée dans Puccini?
Non, pas spécialement, non, spécialement, mais dans le répertoire italien, probablement, ouais. Bien sûr.
Mais pourtant, vous ne ressentez pas d'émotion particulière
mais
dans...
C'est l'ouvrage, mais vous savez, des fois, des ouvrages. Oui. Pourquoi on aime tel livre? Pourquoi on aime tel film? Pourquoi...
Bah, y a des répercussions
bien
tout à
sûr,
fait personnelles,
mais ça me touche
intimes,
pas parce que...
inconscientes.
Non. Même musicalement, ça ne me touche pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, et je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu.
Vous persistez tout de même à essayer de,
ah oui, toujours.
De comprendre.
Ah, mais bien sûr. Ah oui, tout à fait. Oui. Pas, je suis allé un jour spécialement au Capitole pour voir la rondinée dans la mise en scène justement de Nicolas Joël qui est reprise là. Je suis sorti un peu comme je suis entré.
Bon.
Mais voilà.
Eh ben écoutez.
Et ça n'empêche pas d'y aller.
Ça veut dire qu'il faut justement continuer d'y aller,
il faut
ne pas avoir d'a priori.
Il faut persévérer.
Persévérer.
Voilà, bien sûr.
Alors, persévérons avec le dernier ouvrage, là, que moi, j'ai vu plusieurs fois, Madame Butterfly.
Oui,
et
même
moi,
production.
Je dirais que ce n'est pas celui que je
préfère.
Je sais,
j'imagine. J'imagine.
J'aime pas trop Madame...
Et pourtant, ouais,
oui, la soumission de la femme,
oui.
Là, moi, ça me...
C'est vrai,
ça m'horripile
mais
un petit peu.
Hein. En faisant abstraction de ça, musicalement, c'est d'une richesse
oui,
folle.
C'est
folle.
D'une richesse folle.
Et alors, moi, cette production, j'avoue... Alors, ça, c'est intéressant de faire le parallèle et le contre-pied, parce que cette production me touche vraiment. Mais me touche donc, vraiment, pas par la présence d'une marionnette.
Oui. Et vous ça, l'aviez déjà dit, je me souviens, de ces
oui,
grandes marionnettes là,
qui
très expressives.
Qui a des accents, c'est grotesque presque de dire, cette marionnette a des accents humains.
Ouais.
Ne serait-ce par les petits mouvements que les marionnettistes lui donnent, l'espèce de tête un petit peu penchée, un petit peu levée, le corps un petit peu voûté. Je trouve que c'est mais bouleversant. Vraiment. Alors là, j'ouvre une parenthèse aussi. Je parlais tout à l'heure, ou récemment, de cantatrices exceptionnelles. Après Lise Davidsen, il y a Asmik Grigorian. Et ça, c'est le sommet actuel. Oui. Voilà. Malheureusement, pour l'instant, on la voit très peu en France. Peut-être l'été prochain, mais ça, on n'en sait trop rien. On n'en sait rien, en fait. C'est une relativement jeune cantatrice, originaire de Lituanie, qui est née dans un foyer... artiste, puisque son papa, que j'ai connu, que j'ai entendu, Gegard Grigorian, était un ténor d'une solidité à toute épreuve, chantant les rôles de Verdi très, très dramatiques, comme Radamès dans Aïda, des choses comme ça, qu'on a vu un peu dans la région, à Montpellier, tout ça, qui est décédé il y a quelques années. Et c'est sa fille, Asmik, qui est en train de bouleverser un petit peu la planète lyrique par l'étendue de sa palette d'expression vocale et dramatique. Que ce soit dans le répertoire italien, ou le répertoire d'Europe centrale ou russe. C'est phénoménal. Donc, ben...
On va voir Madame Butterfly.
Et c'est le début d'Asmik Grigorian au Métropolitain. Uh-huh. Accompagné, là aussi, c'est un atout de plus pour cette production, accompagné par un ténor d'Amérique latine, du Chili exactement, qui s'appelle Tettelman, qui va ravir le public féminin.
J'allais dire, pourquoi que le public féminin?
Accessoirement, le public masculin aussi.
par, je vous taquine,
Non, pas du tout. par son côté un petit peu Italian lover.
Ah, j'allais dire French lover, non, Italian.
Italian lover,
lover
oui. Non, mais si elle est née au Chili, voilà.
Ouais. Mais quand je vous écoute, Roland, vous parlez beaucoup de la voix, moi je parle beaucoup des costumes, de la mise en scène, mais on voit combien l'œil et l'oreille sont tout de même à égalité.
Bien sûr. C'est un art total quand même, l'opéra.
C'est un art. Ne faire qu'écouter...
Oh ben, c'est partiel.
C'est partiel. Et quand vous parlez de la marionnette, elle vous émeut
ah oui.
par sa physionomie aussi.
Ah oui, oui. parce qu'elle traduit.
Ouais. On a besoin de se raccrocher.
À travers la matière, à travers le bois, elle traduit des sentiments humains. Et ça, je trouve ça extraordinairement bien vu.
C'est un peu comme Pinocchio. Enfin,
Oui, non, mais voilà, si vous voulez.
C'est ça,
tout à fait.
Combien le Pinocchio nous interpelle alors que c'est une marionnette, que
bien
c'est
sûr,
une poupée.
Bien
en
sûr.
Bois. Mais merci beaucoup, Roland, de nous avoir parlé dans ces deux émissions, donc des 9 retransmissions au Metropolitan.
Ah oui.
Donc, la première émission parlait des 5 premiers opéras, donc jusqu'au mois de janvier. Celle-ci nous parlait des 4 jusqu'au mois de mai. Et nous finissons, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, avec un hommage à Maria Callas. Vous disiez que personne n'a chanté comme elle.
On peut l'entendre et le réentendre, cet air principal de Butterfly. Callas, c'est une dimension à attirer les larmes.
Bien.
Tirons-les.
Tirons-les discrètement hors micro.
Voilà.
Merci à vous, Roland.
Avec plaisir.
Yeah.